con cano di lego e bololo, con cano di lego e bololo. Alla dama figlie no paue, papà lo cosa bo, bo chi ue io alla dama, bo chi ue. Alla da tino, alla da dai fri, bo fie nu paue, oh, oh,
oh. Franck Etienne, Anthologie secrète. La tourmente de la langue française. Ma fenêtre embrassée, mon esprit chaviré et mon cœur paniqué. À l'évidence d'une langue qui n'était plus la mienne. À l'audition d'une phrase que je n'avais pas comprise. Au flûtage d'une musique de vertige et d'ivresse. Comment t'appelles-tu petit ? Me demanda plusieurs fois l'institutrice. La révérende sœur Félicienne, la religieuse, à la voix très douce, la blondinette aux yeux bleus. Tendresse manuelle dans ma mémoire, elle me caressa le visage et les cheveux, réitéra son interrogation une dernière fois. « Comment t'appelles-tu, petit ?» Sourire niais, rictus de bégouet, je ne réponds mot. Je ne comprenais absolument pas la question formulée dans une langue qui m'était totalement étrangère. Je vivais et grandissais dans un quartier où l'on ne parlait pas le français, dans une famille où l'on ne pouvait s'exprimer qu'en créole. Je n'avais aucune pratique de la langue française. Sœur Félicienne s'éloigna, l'air étonné, choquée peut-être par mon mutisme, intriguée d'avoir eu en face d'elle un enfant drôlement taciturne. Exclusivement créolophone, je n'avais rien compris de la musique tulututu modulée par la voix affectueuse de la belle religieuse. Un petit camarade de classe lui-même, bilingue, s'approcha vivement de moi pour me dicter, dans un éclat de rire moqueur, la traduction répétitive de la phrase magique « Kouman ou relé macaque ». C'est non ou yomando macaque, qui j'en ou relé ti macaque, ou pas comprendre français, ou t'a mandé, ou t'a foutmandé, on t'a demandé ton nom, petit macaque. En ce beau matin du premier lundi de ce mois d'octobre de l'année 1941, j'avais exactement 5 ans et demi. C'était mon premier jour de classe. Accablé de complexes, victime des préjugés de l'époque, ma malheureuse mère n'avait cru bon de me placer dans une institution religieuse sophistiquée, un établissement scolaire huppé, fréquenté par des enfants de riches, surtout des bourgeois mulâtres, des aristocrates et des fils d'étrangers. À son avis, j'étais un authentique fils de blanc. Pour le respect des valeurs ethniques traditionnelles, c'était pour elle un devoir sacré de se saigner à blanc pour pouvoir m'inscrire dans une école de blanc, digne de mon statut de blanc. Or, moi, j'étais un blanc manant, un petit blanc paubant, un vieux blanc, un faux blanc, un blanc bâtard, venu au monde à contre-courant des normes sociales, par hasard, par contrariété, par conjonction fortuite, par pur besoin pulsionnel physiologique et par nécessité biologique élémentaire, dans un enchevêtrement de faits aléatoires et complexes. Elle avait oublié tout ça. Ou plutôt, elle n'avait pas compris ou refusé d'admettre que j'étais un caca sans savon. Je n'avais pas de père. Nous n'avions pas d'argent. Aucune garantie financière. Nous n'avions pas d'argent. Rien d'essentiel ne nous était acquis en matière de sécurité sociale et vitale, sauf le pain quotidien et le gratte-pétrin à la boulangerie de mon beau-père, Joseph Volsi. Comment t'appelles-tu, petit ? Inoubliable phrase gravée à l'eau forte dans ma mémoire d'enfant blessé. Je l'ai bien intériorisé, cette phrase, à la fois légère et pesante, innocente et grave, qui devait être quelque part à l'origine de mes options littéraires. La langue française me fascina très tôt. J'apprenais rapidement, fiévreusement, passionnément. Je lisais tout ce qui me tombait sous les yeux. Peu à peu, je m'initiais aux secrètes et lumineuses beautés de cette langue terrible, maudite, envoûtante, fascinante et sacrée à l'époque dans les milieux urbains. Je parcourais avec rage les ouvrages rangés dans les étagères de la petite bibliothèque de mon beau-père. Le livre qui m'interpella le plus a été le dictionnaire Petit Larousse. D'abord, je l'ai feuilleté, courtisé, palpé, caressé, avec crainte et timidité. Et puis, je fus moi-même victime de ma curiosité et de ma hardiesse, ensorcelé par les mots, happé par les mots, conquis par les mots, totalement envoûté par les mots, j'ai appris le dictionnaire Petit Larousse par cœur. Tous les mots français avec leurs définitions respectives. Un volcan de mots, une irrésistible éruption de mots, un ouragan de mots. Il y en avait de toutes les couleurs, de toutes les saveurs, de toutes les nuances, de toutes les odeurs, de toutes les formes, de toutes les sensations et de toutes les subtilités. Il y en avait des mots juteux, des mots veloutés, des mots moelleux, des mots acides, des mots brûlants, des mots obscurs, des mots éclatants, des mots parfumés, des mots onctueux, des mots méchants, des mots généreux, des mots sensuels, des mots graves, des mots profonds, des mots légers, des mots tristes, des mots joyeux, des mots aveuglants, des mots bruyants, des mots silencieux, des mots capricieux, des mots bruyants, des mots silencieux, des mots turbulents, des mots audacieux, un tourbillon de mots, une spirale de mots, une explosion de mots, apogée, mélancolie, cramoisie, chaussure, se nourrir, paroxysme, dromadaire, breuvage, garniture, ventricule, florilège, amont, tristesse, patriotisme, intensément, orgie, attitude, éloquence, protubérance, tendresse, architecture, triangulaire, insomnie, recevoir, oui, recevoir, philodendron, jamais, volupté, toujours, transhumance, transcendance, nébuleuse. Comment t'appelles-tu, petit ? Phrase insinuatrice, incitative, traumatisante, amère et douce. Phrase mythique, fondatrice de mon écriture, spécifiquement basée sur le traitement des mots considérés comme matériaux fondamentaux de l'acte d'écrire. La modernité fonctionnelle dans la dynamique de l'aventure scripturale. Comment t'appelles-tu, petit ? Phrase douloureuse de la mise hors jeu. Phrase indicative des exclusions sociales et de mon identité marginale. Phrase expressive des discriminations séculaires et des terreurs linguistiques. Phrase assommoire. Phrase de la mise hors combat. Tout jeune, je me préparais à la revanche. Je m'étais dit que j'avais un compte à régler avec la langue française et avec moi-même, le petit macaque du Bel Air. Par esprit de vengeance, j'ai violemment bouleversé, déconstruit, massacré et violé la rusée, la perverse, la perfide, l'insidieuse, la piégeuse, la frivole, la déroutante, la déconcertante, la sorcière, la sinueuse, l'irrationnelle, la toute nue dans mes livres insolites. Je l'ai couchée toute nue dans mes livres insolites. Je l'ai défoufoufounée à mourir de plaisir. Je l'ai découcoucounée jusqu'à la moelle. Je l'ai aussi caressée, bercée, bichonnée, léchée, fignolée, dordonnée jusqu'à l'extase. Quant au petit macaque du Bel Air, il se cherche encore dans les éjaculations métaphoriques des miroirs hystérique. Franck Etienne.
Au cas où il y aurait une personne qu'il ne le connaîtrait pas, c'était Rodney Saint-Éloi, poète et éditeur chez Mémoire d'Encrier. personne hautement recommandable. Tiré de Milo d'Émile Olivier aux éditions Gallimard. Ma ville, rongée par la mer, je la connais rue par rue, quartier par quartier. Je connais ses différences, la différence des visages et des âmes. J'ai un sentiment d'amour, de piété filiale envers cette ville, un sentiment de solidarité avec les êtres. Cortège de paumés, filles de joie sans joie, fantômes errants d'insomnie, vagabonds englués dans les bas-fonds du rêve. J'aime cette ville, labyrinthe où résonne jusque dans la blancheur blême du petit matin l'écho de la voix éraillée de l'humaine Casimir. Dès qu'elle commençait à chanter de sa voix de braise, elle incendiait le monde de la meringue. Suis-je en train d'inventer ces images que je lâche au fur et à mesure comme des flatulences de petit mille? Ethnologue de moi-même, je suis partie à la recherche d'images fondatrices, taraudée par le désir lancinant de comprendre cette vie que je vivais. Je la découvre, à la fois unique et multiple, folle et terriblement rationnelle, souffrante et joyeuse. Je le sais, ma ville ne me lâchera pas. Où que j'aille, je me retrouve, je ne sais trop comment, dans ma ville. Je la vois au loin toutes les nuits. Je la reconnais à cette odeur de varech, à ces rues grouillantes. Je la reconnais à ces villas luxueuses, perchées à flanc de montagne, à ces taudis qui se bousculent en dévalant la pente du bel air. Je la reconnais à cette meute de chiens insomniaques qui m'accompagnent, moi, l'enfant, aux pieds poudrés. Ô ma ville, aux mille visages, où se juxtaposent, se chevauchent et s'annulent tant d'événements. Port-au-Prince, ma ville, amoureusement blottie au fond d'une baie lumineuse, tu recèles tout un orchestre de fantômes. Derrière l'écran des pentes agrestes du morne l'hôpital, dont la musique des tambours et le jeu d'orgue des tchatchas dans les flamboyants en fleurs tiennent en suspens le passé. Au-dessus du vertige du temps, chaque geste, chaque parole résonne de l'accord grave de tes histoires enfouies dans ma mémoire. Gloire de l'enfance qui aime le vent dans les branches des amandiers. Gloire de l'enfance qui ausculte le cœur ouvert des cocotiers après le passage de la foudre. Gloire au temps d'enfance où l'on perchait sur les branches des abricotiers, où l'on partait à l'assaut des palmiers, guerriers sans peur et sans reproche. La chaleur du jour était tempérée par le passage dans les bénitiers et nos fringales d'après-midi, par le chapardage dans les tabernacles de Saint-Antoine. Tu gardes encore le goût insolite du pain azyme, fin de bruit et de musique. Là-bas, le chant matinal du coq rappelle chaque aube la trahison de Pierre et les airs ensorcelants des contes que les grands mounes interdisent de chanter en plein jour sous peine d'être changés en statue de sel comme la femme de Lot. Ô temps d'enfance, ces souvenirs qui me viennent par vagues produisent en moi l'impression d'avoir vécu dans un monde enchanté, royaume d'odeurs et de sensations fortes. J'entends pousser le maïs. Je vois le battement fragile des ailes des papillons emprisonnés. Je sens l'odeur de l'humus et celle des réserves de fourmis rouges d'Amérique que je cultive. Seul roi de mon royaume, je hume toutes narines ouvertes, la terre, les feuilles, les fleurs et le vieux vent caraïbe. Émile Olivier.
Je vais lire trois poèmes de notre ami hautement recommandable, Rodney Saint-Éloi. Le poème s'appelle « Partir ». Au bout du grand soir ou du petit matin, le poème s'appelle « Revenir » dans un bourg cadastre, dans la géographie intime de la source. La phrase perd ses dents de vieillesse, c'est la vie, persiste ainsi la chanson du destin. La mer est là entre les collines des songes, qui dirait le dernier souffle, c'est la vie, qui dirait le dernier fusil pour le dernier combat. Le poème s'appelle « Arbre, eucalyptus et laurier, café, cerise des mornes, manguier sauvage des savanes et la combite des cœurs heureux. Notre voyage est une route d'eau, des mers étranges, des fleuves limpides, des lacs flambants, des tourments liquides et d'ivresses multiples. Notre route est un voyage d'île, morne chatterie où le monde est né, morne timide de terre blanchie par le mauve des aubergines, oiseaux engrangés bleus dans la solitude des ciels. La route, empapillonnée jaune, nord brisé, presqu'île sud, ouest mouillé par le maïs des plaines, cavaillon de toutes les déroutes, c'est l'étang marque poussière brune qui chatoie la rivière. Cavaillon, c'est encore le morne blanc, toujours trop blanc. Le ciel argile qui fait rire les cochons créoles et l'abondance des eaux où vagabondent les cabris rebelles, cavaillant aux cases basses où Grand Tida étale sa tombe. La lente nuit des sages et les étoiles s'enfoncent dans les cruches. Ce soir, je meurs dans le poème. Je meurs debout dans une histoire d'île noyée. Mon enfance, au doigt d'une bille rouge, frappe à ma porte, cavaillon que j'aime d'un cœur melon d'eau. Le son de choses en temps de révolte, la foule, le palais, l'assommoir, toujours ce puits avide de sang, le pouvoir a les mains insensées. La terre nourrit l'hystérie des hommes, les arbres filent la chimère des rues, les canons sont les cahiers d'écoliers. Il fait un temps gris de trop de honte, un temps quadrillé de sang. Il fait un temps idiot. Rue des hivers longs, quelle part de nous ira en notre île si nos amours, elles aussi, sont en exil? Rue des cauchemars plus longs que les sanglots, quel est le pain qui rompt la faim? Quelle est l'eau qui étanche la soif? 6 juin, mon premier amour, mon unique tremblement. Post-scriptum, c'est du côté gauche que j'existe depuis. Les oiseaux habitent désormais tes prunelles.
Bonsoir. Il était moins une. On m'a demandé de vous lire ce soir et ça me fait très plaisir de lire un extrait du livre d'Emma. Comme c'est un roman, juste pour vous situer, l'Emma du livre, c'est une femme incandescente à la peau si noire qu'on la croirait bleue, bleue comme ces océans sans horizon qui l'obsèdent tant. Internée dans un hôpital psychiatrique à Montréal, accusée du meurtre de sa fille, Emma n'acceptera de confier ses récits qu'à Flore, son interprète, cette négresse ratée qu'elle surnomme Poupette. Elle lui racontera comment la folie s'est emparée des femmes de sa lignée et remontera le fil de l'histoire jusqu'au bateau négrier et aux plantations. À l'époque de la parution du livre, j'avais eu à le commenter dans la presse et j'avais dit ceci, vous me permettrez de me citer. Le livre d'Emma n'est pas un simple roman, c'est un long chant de colère et de détresse, un blues digne de Billie Holiday, à la fois langoureux et violent, fielleux et mélancolique, un diamant de poème plus noir que la nuit. Mon nom est Emma. Tu le sais déjà, poupette. D'ailleurs, j'oubliais aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de moi, mais bien de Fifi. Fifi est ma mère. On ne lui connaît pas d'autre nom. Le matin où mes sœurs et moi nous sommes libérés de l'utérus de Fifi, cette même eau bleuâtre s'étend sur les montagnes qui enserrent Grand Lagon. Nous sommes cinq, d'un seul coup cinq enfants, cinq filles mort-nées. Quel combat Fifi a dû livrer pour nous arracher d'elle? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est le bleu. À ces mots, le visage d'Emma se crispe et son corps se tend comme un arc. Habitée par son récit, bien vite, elle revient à elle et poursuit avec cet air d'égarement qui lui vient souvent. La date et le moment de ma naissance ne sont consignés nulle part, ni même encerclés de rouge sur un quelconque calendrier. À Grand Lagon, les calendriers ne sont pas destinés à indiquer les années, les mois et les jours. Tante Grazie et Fifi les alignent sur les murs à côté d'images de Christ au cœur ensanglanté et de femmes aux allures de reines de carnaval. Ainsi décorés, les murs doivent leur paraître moins laids. Seuls ceux dont les maisons ont des murs peuvent les couvrir de calendriers, dit Tante Grazie avec ses manières de sibylle dont elle aime se parer. Et elle ajoute qu'ils ont raison de faire usage des calendriers pour mettre des taches de couleur sur les murs, autrement ils ne servent à rien les calendriers. Avant notre naissance, mes sœurs et moi, poursuit Emma, les cyclones, les tempêtes et les raz-de-marée servaient de repère pour tout ce qui survenait dans le pays et semblait important. Par la suite, les gens ont délaissé les catastrophes naturelles et ont commencé à situer les événements dans le temps en les plaçant avant ou après notre naissance. Notre arrivée au monde aurait pu passer inaperçue, mais les utérus et les mères, tout comme le nombre d'enfants, sont attribués de manière anarchique et illogique à Grand Lagon. Sur notre bout d'île, cette naissance collective cause tout un émoi. La sage-femme nous a rassemblés toutes les cinq dans un grand drap. Elle en noue les bouts pour nous emmener au dépôt d'ordures ou peut-être dans un trou creusé entre les racines d'un arbre. Mais au moment où elle s'apprête à franchir le seuil de la chambre, je pousse un cri perçant. Dans les prés, les vaches arrêtent de brouter, prennent leurs pattes à leur croupe. Les oiseaux regagnent en toute hâte leur nid. Dehors, il fait un de ces jours de furieuses tempêtes. Des orages grisèbrent le ciel, les vents hurlent sinistres. Nul ne se souvient avoir connu cyclone si violent. En ce temps-là, les cyclones portaient tous de beaux noms de femmes. On les appelait Flora, Hazel, Marilyn, Bertha. Cependant, après ma naissance, plus personne ne se souvenait du nom du cyclone. D'après Tante Grazie, mes cris couvraient les hurlements de tous les vents réunis. Lorsque la sage-femme se rend compte que quelque chose gigote et hurle dans ce lot de cordons enchevêtrés et de membres tords qu'elle vient d'extirper des cuisses ensanglantées de Fifi, elle s'arrête net, le souffle coupé. Fouillant alors de ci, de là, tirant d'un côté une jambe, de l'autre un bras qui semble avoir trempé dans l'aniline, elle me découvre. Oui, poupette, j'étais là pour rester, bien décidée à tout savoir et à faire le voyage jusqu'au bout. On aurait dit un amas de crapauds crevés, racontait toujours Tante Grazie, frémissante d'horreur. Celle-là, disait-elle, en faisant référence à moi, bien entendu, criait pour toutes les autres dont on n'a jamais entendu la voix. Pauvre Fifi, elle en était tellement effrayée que je devais parfois bâillonner cette chose affreuse qui hurlait nuit et jour. Il y a, dans la chambre de Fifi, face au lit sur lequel elle gît, inconsciente, dans une mare de liquide noirâtre et gluant, une grande armoire en acajou dépoli. Au ventre rebondi comme la panse d'un animal qui s'apprête à crever. Mon cri. La force de mon cri fait craquer le bois qui répand sur le sol une armée de termites affolées. Et moi, malgré mon apparence de têtard crevé, c'est ainsi qu'on me décrit, je sais déjà tout cela, car je suis venu au monde portant sur mon crâne mou cinq coiffes, la mienne plus celle de mes quatre sœurs. Je jouis donc de la chance extraordinaire de tout comprendre, de comprendre pour cinq. Bref, cela, surtout, faisait peur à Fifi. Un enfant né coiffé, Ce n'est pas acceptable. Mais un têtard qui, dans le ventre de sa mère déjà, s'approprie ce qui ne lui appartient pas, c'est le malheur assuré, la promesse de l'enfer pour ses proches, un petit animal tyrannique, une bête malfaisante, vorace, avec des yeux et des mains sur tout le corps. Jadis, on les enterrait vivants tout de suite, le jour même. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, semble dire la sage-femme au visage déconfit qui, comme Fifi, aurait préféré nous voir mortes toutes les cinq. On m'avait laissé entendre que j'aurais le plaisir d'annoncer la prochaine personne. C'est une poète dont je suis le travail depuis des années et que je suis très heureuse de voir ici, non? C'est déjà fait? Oh! C'est quoi? J'allais présenter Hélène Dorion, mais bon, c'est bon, maintenant. Puisqu'on m'a dit plus tôt que c'est Dany Laferrière, est-ce que j'ai besoin de le présenter? Hey!
Bonsoir. Vous êtes en grand nombre. Nous, les poètes, je suis tellement fier de dire cela, nous, les poètes, ne sommes pas habitués. J'ai choisi de lire deux poèmes de Roussan Camille. Roussan Camille, parce que c'est mon adolescence, parce que il a trompé tout le monde. On le croyait indigéniste, alors qu'il n'était qu'un dandy alcoolique. Je trouve que c'est pour cela qu'il a duré plus longtemps que tous ceux qui portaient une idéologie à la boutonnière. Nedjé, tu n'avais pas 16 ans, toi qui disais venir du Danakil et que les blancs pervers gavaient d'anis et de whisky en se fumant d'encine de Casablanca. Le soir coulait du sang par la fenêtre étroite jusqu'au burnou d'Espaï, affalé contre le bar, et dessinait là-bas, au-dessus du désert proche, des pics visions de choc et de poursuite, de revers et de gloire. Un soir sanglant, qui n'était qu'une minute de l'éternel soir sanglant de l'Afrique, et si triste que ta danse s'en imprégna et me fit mal au cœur, comme ta chanson, comme ton regard plongé dans mon regard et mêlé à mon âme. Tes yeux étaient pleins de pays, de tant de pays, quand te regardant, je voyais ressurgir à leur fauve lumière les faubourgs noirs de Londres, les bordels de Tripoli, Montmartre, Harlem, tous les faux paradis où les nègres dansent et chantent pour les autres. L'appel proche de ton Danakil mutilé, l'appel des mémoires fraternelles apportait à ta danse d'amour une pureté de premier jour et labourait ton cœur de grands accents familiers. Tes frêles bras, élevés dans la fumée, voulaient étreindre des siècles d'orgueil et des kilomètres de paysage, tandis que tes pas, sur la mosaïque cirée, cherchaient les aspérités et les détours des routes de ton enfance. La fenêtre donnait sur l'est inapaisé. Cent fois, ton cœur y passa. Cent fois, la rose rouge brandie au bout de tes doigts fins orna le mirage des portes de ton village. Ta souffrance et ta nostalgie étaient connues de tous les débauchés, les marins en manœuvre, les soldats en congé, les touristes désœuvrés qui ont broyé ta poitrine nue de tout leur vaste ennui de voyageurs. Les missionnaires et la foule lâche ont parfois essayé de te consoler. Mais toi seul, c'est, petite fille du Danakil, perdue au dancing fumeux de Casablanca, que ton cœur se rouvrira au bonheur lorsqu'aux aurores nouvelles, baignant le désert natal, tu retourneras danser pour tes héros morts pour tes héros vivants, pour tes héros à naître. Chacun de tes pas, tes gestes, tes regards, ta chanson diront au soleil que ta terre t'appartient. On n'a pas le droit de commenter les poèmes, mais j'ai eu l'idée que c'était une métaphore d'Haïti. Ce dandy a écrit un autre poème qui raconte un peu la nuit qu'on a vécue le 12 janvier dernier. C'est une façon de raconter la mort sous un angle personnel. Et je crois que c'est le plus tragique poème écrit par un Haïtien. Et peut-être, à mon avis, simplement, le plus beau. Ça s'appelle « Nuit d'hôpital ». Il n'y a rien de plus tragique qu'un dandy en train de mourir. Et voilà ce que rapporte. Il s'est fait le reporter de sa propre mort. Et c'est une nuit vraie, une nuit réelle qu'il rapporte là, au Saint-Camille. Ô jungle, contenue rien que dans l'embrasure, ce sablier si fier aux heures de grand soleil n'est plus qu'une bête d'horreur dans la nuit et qui galope, se rue, galope encore. Pour cependant ne point bouger de mon cauchemar, Notre-Dame des fièvres, grande dame des angoisses, aie pitié des pensées qui s'affolent dans la nuit. Et voici que tous les arbres, dont la parure attendrit la lumière, dont la forme anoblit l'espace, voici que tous les arbres contenus dans l'embrasure sont des monstres grouillants contre les continents des nuages en marche vers ma solitude. Notre-Dame des soucis, regardez ceux qui ne dorment pas. La chanson des enfants qui rêvent au carrefour proche, la mélodie de caresses de feuilles que la brise élargit et prolonge, ne sont point musique, mais déchirement des entrailles de la nuit. Notre-Dame des cœurs défaits, sentez-vous le dernier feu de mon combat. Sœur Alice, revenez avec la morphine et l'opium, avec votre front de compassion et vos mains de prière. Je verrai l'aurore monter de l'océan de vos yeux, où le Christ est aussi doux que dans les songes bibliques, étend une main grave aux vagues des peines humaines. Notre-Dame des fièvres, grande dame des angoisses, aie pitié des pensées qui s'affolent dans la nuit. C'était au Saint-Camille. Je vais dire quelques mots. C'est vrai que c'est une soirée qui n'est pas une de tristesse. Et elle est dite ce soir avec les mots d'Haïti. Et dit par tous ces Haïtiens-là qui viennent de partout dans le monde, puisque nous sommes tous ce soir Haïtiens. Nous sommes tous Haïtiens depuis d'ailleurs le 12 janvier. Le 11 janvier, c'était différent. Et je suis très heureux de voir encore une fois que le chant populaire, le chant qui unit les humains, c'est toujours la poésie. J'ai personnellement défendu du mieux que j'ai pu la poésie parce que je sais que c'est par la poésie uniquement, je crois, que l'âme lance son cri le plus pur. Et la poésie a toujours été le fil rouge, non seulement de la culture, mais de l'histoire haïtienne. C'est des mots très... L'histoire haïtienne, disons, la nation haïtienne est née à partir d'un mot fracassant, celui de Bois-en-Tonnerre, on s'en souvient. C'est quand même mieux que la violence qui a précédé ce mot-là. Il nous faut la peau d'un blanc pour parchemin, son crâne pour écritoire, son sang pour encre et une baïonnette pour plume. Je suis sûr qu'en disant cela, Boisson Tonnerre voulait éloigner la violence, parce qu'il a dû s'étourdir de ses propres mots, s'enchanter de lui-même. Et c'est ça la poésie. Quelqu'un peut vous gifler et vous avez un vers qui est si beau que vous n'avez pas besoin de lui rendre sa gifle, parce que la poésie vient de s'installer. Et c'est ça la force de la poésie. Je me souviens d'ailleurs de ma mère, d'ailleurs, à quelqu'un un jour qui nous a insultés dans la rue, et elle lui a dit « Considérez-vous comme giflé, monsieur. » Et c'est ça la poésie. Parce que l'homme a battu en retraite. L'homme a reculé face à ces mots-là. Et cette poésie ne s'est pas contentée uniquement de l'histoire haïtienne. Elle s'est mêlée dans le sang haïtien et a continué d'ailleurs comme un fil rouge. On l'a vu en 1836, quand les poètes haïtiens ont voulu sortir de la névrose coloniale pour dire avec leurs propres mots ce qu'ils voient, leur paysage. Les frères No, Ignace No, Émile No, les Ardouin qui habitaient tout près, Bobon Ardouin, Céline Ardouin, le jeune Coriolan Ardouin, les Lespinasse, Beauvais Lespinasse, ils habitaient dans deux ou trois rues et ils ont formé ce qu'on appelle l'école de 1836. Et ils voulaient tout simplement sortir du Parnasse français, dire avec leur propre cœur, leurs propres mots, ce qu'ils ressentaient, surtout ce qu'ils voyaient à l'époque. On n'était pas encore dans le paysage intérieur, on était dans la description du paysage qui nous entourait. Et ça a continué jusqu'à ce qu'un jour, Edzer Viller, un peu plus tard, dira « Il ne suffit pas de planter le mot palmiste au bout d'une méchante rime pour faire de la poésie. » Et lui, il a fait autre chose. Il a parlé plutôt de manière métaphysique. Il a écrit les hommes noirs, les 10 hommes noirs. Il est allé plus loin jusqu'à ce qu'un autre aussi, là-bas, comme dans une fusillade, alors c'est la génération de la ronde. Et c'était les romanciers qui prenaient place à l'époque. C'est-à-dire, on a eu, et dites-moi bien, et Rodney, on a eu Frédéric Marcelin. Oui, alors, on a eu Innocent, on a eu Fernand Hibert. Donc, on a eu la littérature, la poésie, le roman, l'art du regard intérieur comme du regard extérieur a toujours donné la main à la nation haïtienne et c'est ce qui l'a soudé d'une certaine manière. Mais non content de cela, on a fait de la peinture. On s'est tellement émerveillé des couleurs qu'André Malraux, arrivé en Haïti, s'est exclamé, mais ils ont inventé la couleur ici. Et oui, il disait dans sa manière un peu rapide, et comment se fait-il que les Africains connaissent le bois, la sculpture, et que la couleur soit littéralement, est surgie en Haïti. Et puis la musique, et puis tout cela. Et c'est ça que j'ai senti quand j'étais avec mon ami Audenay Saint-Éloi à Port-au-Prince, et quelques heures même d'ailleurs après le tremblement de terre, et que j'ai entendu durant la nuit ce chant, que tout le monde a peut-être entendu aussi, même à la télévision, ce chant monté du tréfonds de la terre, ce chant, un mélange de chants catholiques, de temps protestants, de chants Jéhovah. D'ailleurs, au début, et de chants aussi d'individus qui chantaient du fond de leur âme, j'ai senti que dès que le chant a pris place, l'âme haïtienne était présente et qu'elle n'allait pas mourir. Et ça m'a donné, disons, l'impression qu'on était encore vivant. Il faut dire que les témoins Jéhovah, avec leur manière personnelle, parce qu'ils fêtaient, ils disaient que l'Apocalypse est enfin arrivé, et qu'ils avaient raison de l'annoncer. Ils étaient, mais je crois quand même, moi je trouve que c'était de l'humour d'ailleurs, et c'était aussi quelque chose au moins de positif. Quelqu'un avait raison dans cette histoire. Et comme ils étaient nombreux, et peut-être 20, 30 000 dans les rues de Port-au-Prince cette nuit-là, à chanter, à crier. Ça a réveillé les enfants qui se sont mis sur le terrain de tennis à danser aussi. Et ça a réveillé cette petite fille aussi qui s'est demandé, maman, est-ce qu'il y aura classe demain? Et cette phrase commentée par Audenay Saint-Éloi qui disait, c'était la phrase de l'avenir. Pendant que nous étions dans le présent, un présent déconstombré, comme aurait dit Franck Étienne, un présent par terre, un présent défoufouné, comme aurait ajouté Franck Étienne, encore le même. Et lui, l'enfant, il était dans le demain, et un demain rêvé. Il voulait qu'il n'y ait pas de classe. Un peu comme Radiguet, parlant de la Seconde Guerre mondiale, disait, la Seconde Guerre mondiale, 3 ans de bonnes vacances. Merci.